Joachim a traduit « L'éveillé est le répondeur des tentes de Jacob ». L'éveillé, c'est qui? Ce serait le sacrificateur. Il devrait être éveillé. Et c'est lui qui devrait répondre aux besoins du peuple. Il retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et celui qui répond. Donc, il a une tâche, veiller et parler. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande. Donc, celui qui présente une offrande et qui n'est pas correct sera retranché, mais le sacrificateur aussi. Comprenez-vous? C'est exactement ce qu'il est dit dans le chapitre 14 d'Ézéchiel. Le prophète aura la même peine que celui qui vient le consulter et qui reste dans son péché. C'est l'Éternel des armées qui dit cela. J'ai là plusieurs... On m'a demandé pourquoi j'avais toutes ces Bibles, mais c'est pour essayer de vous montrer comment on peut lire l'Écriture. Dans le français courant, verset 12, verset 11, vous voyez, les gens de Juda ont trahi leurs engagements. Ils ont commis des actions abominables à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël. En effet, ils ont méprisé le lieu saint, cher au Seigneur. Ils ont épousé des femmes qui adorent des dieux étrangers. Que le Seigneur empêche quiconque agit ainsi de trouver chez les descendants de Jacob une personne pour témoigner en sa faveur ou pour présenter en son nom des offrandes au Seigneur de l'univers. C'est comme ça qu'ils ont traduit dans le français courant. Mais au fond, celui qui veille et celui qui répond, c'est le sacrificateur. Et il ne faut pas qu'on en trouve. Mais il n'y a pas que ça, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Français courant dit, vous inondez de larmes l'autel du Seigneur. Vous pleurez, vous gémissez, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Alors, le français courant dit, vous pleurez parce que Dieu n'a plus égard aux offrandes. Non, le Seigneur ne peut pas agréer des offrandes quand elles sont telles. Vous avez beau pleurer, mais vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous bénit pas? Parce qu'on sent très bien quand on n'est pas béni. Pourquoi? Est-ce que vous avez beaucoup de pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas béni? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, regardez ici, c'est très clair, et je pense qu'on a bien besoin d'entendre cela de nos jours, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Vous savez qu'on voudrait passer une loi même au Québec pour faciliter les divorces. Parce que l'Éternel a été témoin. Qu'est-ce qu'on a vu que l'Éternel est? Il est le Seigneur des armées. Il est un père. Il est un maître. Il est un grand roi. Et qu'est-ce qu'il est aussi? Au mariage. Il est un témoin. Hein? Vous parlez toujours de vos témoins. Il vous faut des témoins pour le mariage. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un témoin? Elle était témoin. Il y a un témoin. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Ce serait merveilleux de lire plusieurs passages où cette expression est belle. La femme de ta jeunesse, pourquoi? Parce qu'en Israël, on se mariait jeune. De sorte que la femme, c'était donc la femme de notre jeunesse. Vous pouvez trouver ça dans Proverbes, chapitre 5, verset 18. Être fidèle à la femme de sa jeunesse, nous avons étudié ça au camp Mahanaïm. Dans le Deutéronome, verset 24, verset 5, quelqu'un qui venait de se marier, Dieu avait tellement à cœur leur bonheur, qu'est-ce qu'il faisait? Exempté du... Pendant combien de temps? Un an. Donc vous voyez que Dieu n'est pas contre le mariage. Il y a des avantages qu'il donnait. Et puis même celui qui n'avait pas encore connu sa femme, pour bien montrer que ce n'est pas un péché, cet acte-là, eh bien, on l'envoyait pas au combat. Parce qu'il aurait pu être tué. Dieu avait des égards. Dans l'Ecclésiaste 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et voilà, vous voyez la pensée de Dieu. Parce que, donc pourquoi ça ne va pas? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. C'est surtout l'homme qui est marqué là. On dit toujours que, oh, dans la Bible, il semble que c'est la femme qui a toujours tort. Non, là, c'est l'homme qui est le grand responsable, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit quoi? Ta compagne. Et la femme de ton alliance. Donc, c'est pas rien de se marier. Alors, ce verset 15, proverbialement, il est difficile à comprendre. Tous les commentateurs le reconnaissent et le disent. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Donc, le divorce, celui qui le fait, il ne le fait pas avec bon sens, dit l'Écriture ici. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Mais alors, il est dit, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et qu'est-ce qu'on a cru comprendre en traduisant ainsi? Qui c'est le seul qui aurait fait cela? Qui? On dit Abraham, mais ce n'est pas vrai. Quoi? Bon, écoute, hein, je n'arrive pas. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Alors, quand on prend cela comme ça, on pourrait penser que c'est Abraham. Hein? Il y en a qui ont pensé que c'était Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Agar, il a suivi le conseil de Sarah, parce que il voulait avoir une postérité, c'est-à-dire la postérité que Dieu lui avait promise. Mais il n'y avait pas promis cette postérité par Agar, il lui avait promis cette postérité par qui? Par Sarah. Alors prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Alors, on a dit, ben, c'est Abraham, mais Abraham n'a quand même pas été infidèle à la femme de sa jeunesse, puisqu'il a pris la servante, mais il est resté fidèle à sa femme. Alors, il y a diverses traductions. Dans la Bible d'Arby, il y a une petite note qui est bien. En bas, il est dit ceci. Bien à tort, certains voudraient qu'on lût l'un, donc ça serait, Abraham ne l'a-t-il pas fait? Lui qui avait le résidu de l'esprit, donc parce qu'il avait un reste de l'esprit, le Seigneur lui avait donné son esprit. Mais que cherchait ce seul homme? Une semence de Dieu. Voilà comment certains ont traduit. Darby pense que c'est erroné cela. Bon. Alors, comment a traduit le français courant, qui n'est pas si mauvais que ça, malgré ce qu'on peut dire. Verset 13. Et voici ce que vous faites encore, vous inondez de larmes, au verset 14. Vous demandez pourquoi, donc, Dieu ne veut plus de sacrifice. Eh bien, vous aviez promis devant le Seigneur d'être fidèle à la femme que vous avez épousée dans votre jeunesse. C'était votre compagne. Vous l'aviez choisie et pourtant, vous l'avez abandonnée. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle? Par le corps, et l'Esprit, ça rejoint quoi ça? Genèse, chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Et quand Dieu l'amène à Adam, qu'est-ce qu'il dit? Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Et alors, ils ont ajouté, le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? Une fois qu'on est marié, qu'est-ce qu'on devrait souhaiter? La pilule? D'avoir des enfants. N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par qui? Par Dieu. Et je la trouve excellente, cette version. Elle est simple. Hein? Et au fond, qu'est-ce que vous pouvez désirer? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Parce que les patriarches, comme Jacob, ils disaient à Ésaü, quand Ésaü lui dit qui sont ces enfants-là, il dit ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. C'est beau ça. Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Alors voilà un verset qui est bien éclairé ici. Prenez donc garde à vous-même. N'abandonnez pas la femme que vous avez épousée dans votre jeunesse. Ça, c'est aux hommes qu'il est dit ça. Je hais le divorce et celui qui se rend coupable de violence, dit le Seigneur. Parce que souvent dans le divorce, il y a la violence. Hein. Le Dieu d'Israël et de l'univers, donc le Dieu des armées. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements. Voilà ce que dit le français courant pour ceux qui ont de la peine à comprendre, peut-être. Alors, si je lis maintenant Chourati, parce que pour tous c'est difficile, mais au verset 15, vous dites pourquoi, verset 14? Parce que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu trahis, et ta compagne, la femme de ton pacte. Donc, il est question d'un pacte. L'unique, avec un grand L, ne l'a pas fait. Il avait en sa chair un souffle, et cet unique demandait une semence d'Élohim, donc de Dieu. Gardez votre souffle. La femme de ta jeunesse ne la trahit pas. Oui, je hais la répudiation d'Yahvé Elohim d'Israël, qui recouvre de violence et qui recouvre de violence son vêtement d'Yahvé Sebaoth. Gardez votre souffle et votre esprit. Ne trahissez pas. Vous excédez Yahvé par vos paroles. C'est pas très clair, hein? Vous êtes d'accord? Alors, prenons maintenant la Bible du chanoine Hostie. Alors lui, il a essayé de trouver aussi une explication. Et il dit au verset 15, c'est un verset d'une difficulté proverbiale. Nous l'avons traduit tant bien que mal, en n'y apportant que des corrections rigoureusement indispensables. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vous dites pourquoi? Parce que Yahvé a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que toi tu as trahi, alors qu'elle était ta compagne et la femme de ton alliance. N'a-t-il, donc Dieu, pas fait un seul être qui a chair et esprit? Et cet être unique, que cherche-t-il? Une postérité de Dieu. Donc, ça rejoint, au fond, la pensée que vous avez trouvée dans la traduction en français courant. Mais maintenant, je prends la traduction des Pléiades. Et que dit-il? « Vous dites pourquoi? C'est parce que Yahvé a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, celle que tu as trahie alors qu'elle était ta compagne, la femme de ton alliance. N'est-ce pas un seul qui a fait la chair et l'esprit qui est en elle? Or, que réclame le seul avec un S majuscule? Une race divine. Que réclame le seul? Et pourquoi? Est-ce que nous pensons que c'est une traduction qui se rapproche le plus de la pensée de Dieu? Qu'est-ce que nous avons lu? Verset 10. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Alors, au sujet du mariage, que réclame le seul? Qu'est-ce qu'il réclame? Notre unité. Donc, c'est le Seigneur qui va trancher la question. Qu'est-ce qu'il dit au sujet du divorce? Matthieu, chapitre 19. On vient lui poser la question à Jésus au verset 7 du chapitre 19. Pourquoi donc, déjà au verset 3, les pharisiens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Vous retrouvez là un peu de lumière. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Elle leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi, et vous connaissez la suite. Donc, le Seigneur n'est pas pour le divorce. Mais, l'homme veut toujours se justifier. Tandis qu'ici, il est mis, et ça c'est une chose que nous devons retenir, la responsabilité est mise sur l'homme. Et c'est l'homme qui est mis en cause. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. La plupart du temps, c'est les hommes qui sont infidèles. Car je hais la répudiation. C'est pas moi qui le dis. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement. On a de la peine à comprendre ces mots. C'est que quand un homme en Orient épousait une femme, il mettait son vêtement sur elle. Il mettait son manteau sur elle, comme pour la couvrir. Et puis, alors, si vous divorcez, vous couvrez de violence le vêtement, vous arrachez le vêtement. Ruth, par exemple, a vu Boaz mettre son vêtement sur elle. Alors prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Voilà un texte, n'est-ce pas, qui nous montre que le divorce, ce n'est pas la voie. Mais évidemment, il y a des personnes parmi nous qui peuvent être divorcées pour des raisons que moi je ne juge pas. Mais si vous me demandez ce que je pense du divorce, il y a des choses que vous avez faites peut-être avant votre conversion, ça c'est une autre affaire. Mais d'une façon générale, il ne faut pas penser que Dieu aime le divorce. Et il met surtout la responsabilité ici sur l'homme. Verset 17. Il montre que, au fond, si ça va si mal, c'est qu'il y a le relâchement de plus en plus dans les mœurs aussi. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Dans le chapitre premier, qu'est-ce qu'il disait qui était fatigué? C'est les serviteurs. Hein? C'est les serviteurs qui se plaignent, qui sont fatigués. Maintenant, c'est Dieu qui dit, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Vous n'avez jamais rien compris, vous ne voulez pas comprendre, vous me fatiguez, dit l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, vous voyez que vous retrouvez toujours cette phrase, en quoi t'avons-nous fatigué? C'est la quatrième fois. Hein? En quoi nous as-tu aimé? En quoi t'avons-nous profané? En quoi? Avons-nous méprisé ton nom? Et maintenant, en quoi t'avons-nous fatigué? Mais en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Ça, vous l'entendez constamment. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais croyez-le, il y a bien des hommes de Dieu qui se sont posés même des questions. Je pense à Job, qui était un homme fidèle, mais il s'est posé la question, est-ce que vraiment Dieu serait juste? Est-ce qu'il est juste dans ce qui m'arrive? Il s'est posé la question. Puis, il en a posé des questions à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, l'a fait sortir de tout cela. Maintenant, je pense à Asa. Asa, psaume 73, vous lisez, il dit, tu es juste, ô Dieu, mais toutefois, j'ai des fois porté envie aux hommes violents. Il semble que rien ne leur arrive dans la vie. Ils n'ont pas part aux misères humaines. Tout semble bien aller pour eux. Tandis que moi, mon châtiment revient tous les matins. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Mais alors, il dit que ça a été difficile pour lui de comprendre jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et puis, je pense aussi à Jérémie, le prophète, chapitre 12. Il dit, au chapitre 12, Jérémie qui avait tant à souffrir injustement, mais il pose directement la question à Dieu. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croient qu'ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Et alors, quand nous lisons ce verset 17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites en quoi t'avons-nous fatigué? Mais c'est en remettant tout le temps en question la justice de Dieu. Ou en prétendant, mais ces gens qui font le mal, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Vous croyez que c'est vrai? Vous en arrivez là? Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Péchons afin que la grâce abonde, c'est ça votre raisonnement? Loin de là, vous avez la haine du péché, c'est vrai. Alors, Dieu dit, mais il y a des paroles qui me fatiguent. Alors, ne le fatiguons plus. Mais vous voyez comme Dieu se met à notre portée. Vous, serviteurs de Dieu, vous dites que vous êtes fatigués? Moi, je pourrais vous dire que je suis fatigué, dit le Seigneur. Et même pour une fois qu'il dormait dans la nacelle, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils l'ont réveillé. S'ils avaient eu confiance en Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est déjà notre dernière soirée en ce 16 novembre. Et je me demande si vous trouvez que c'est trop d'avoir eu trois tête-à-tête avec le Dieu vivant en une seule journée. Je veux croire que vous avez eu plus que trois tête-à-tête, que vous avez passé votre journée avec le Seigneur. Même dans nos conversations, en parlant les uns aux autres, je veux croire que le Seigneur était toujours de moitié entre vous. C'est comme cela qu'il n'y a pas de dispute. On s'entend toujours quand le Seigneur est de moitié entre nous. Et quand on cherche à voir quelque chose du Seigneur dans notre frère, hein, qu'est-ce que vous voyez dans votre frère, dans votre sœur, dans votre femme, dans votre mari? Qu'est-ce que vous découvrez? Ce serait quand même formidable d'essayer de découvrir le Seigneur chez l'autre, au lieu d'y voir toujours la petite bête. Y découvrir autre chose qu'une petite bête dans son conjoint, découvrir le Seigneur. Et dans nos frères et dans nos sœurs, découvrir Jésus et Jésus seul. Je crois que ce serait tonique que les uns et les autres nous serions moins déprimés. Eh bien, que la grâce du Seigneur soit avec nous dans cette soirée où vous êtes penchés sur le chapitre 3 du livre de Malachie qui doit vous devenir de plus en plus familier. Seigneur, nous remettons entre tes mains et nous te demandons de nous renouveler par ton esprit, que nous puissions te servir uniquement par la force que tu fournis toi-même. Et que malgré la fatigue que les uns les autres peuvent ressentir, que nous soyons rafraîchis ce soir par ta parole qui est comme une eau pure, et qui nous lave et qui nous vivifie pour ta plus grande gloire. En Jésus. Amen. Eh bien, avec la fin du chapitre 2 que nous avons étudié cet après-midi, nous avions entendu le Seigneur dire à son peuple Israël, à ce peuple revenu de la captivité, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant, « Quiconque a fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Vous voyez comme on arrive vraiment à tourner les choses. On est mécontent de notre sort, puis on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit des méchants qui prospèrent, et on en conclut qu'au fond, celui qui fait le mal, ben, il est bon aux yeux de Dieu, puisque Dieu a l'air de le bénir. Vous voyez comme nous sommes méchants, 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 nous autres. Hein? Parce que quand Dieu fait lever son soleil sur les méchants, nous n'aimons pas. Quand Dieu fait pleuvoir sur les injustes, nous n'aimons pas. Nous voudrions que les injustes ne connaissent que la sécheresse. Nous voudrions que les méchants ne connaissent pas la chaleur du soleil. Que les méchants ne puissent pas se bronzer. Mais nous, hein, les justes, alors on en prend notre quantité de soleil. Nous sommes terribles. Nous sommes vraiment méchants. Or, Dieu est bon. Et il est bon même avec les méchants. Ça vous déplaît? Parce que le cœur de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure. C'est vrai ou c'est faux? C'est Ézéchiel qui nous le dit cela dans le chapitre 18 de son livre. Voilà encore un livre qu'on devrait étudier. Il y en a encore du pain sur la planche. Est-ce que c'est cela qui me plaît que le méchant meure? Non. Qu'est-ce qu'il veut pour le méchant? Qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors il fait du bien aux méchants. Il donne même de la joie à qui? À des païens. C'est saint Paul qui dit cela. Dans le chapitre 14 des Actes, Paul dit, mais est-ce que vous ne savez pas, païens, que la joie que vous avez, c'est Dieu qui vous la donne? Vous ne vous rendez pas compte d'où elle vient, cette joie? Eh bien, c'est Dieu qui vous la donne. Ce Dieu que je vous annonce, c'est lui qui vous donne de la joie. Voilà un homme qui avait un cœur large. Il était heureux que les païens aient aussi de la joie. Et il leur disait, si vous avez de la joie, c'est Dieu qui vous la donne. C'est lui qui nous accorde la nourriture dont nous avons besoin. Alors, que ce que nous voyons de la prospérité des méchants ne nous irrite pas, mais que nous demandions au Seigneur que ces bienfaits que Dieu accorde aux méchants les poussent à quoi? À la repentance. Dieu ne punit pas, n'intervient pas immédiatement sur les méchants parce qu'ils pêchent. Parce que s'il était intervenu immédiatement sur les méchants, ben moi je ne serais pas ici, puis vous non plus. Parce que nous étions tous des méchants. Nous étions tous des pécheurs, nous étions tous méchants. Et Dieu a eu de la patience envers nous. Il ne nous a pas punis selon nos iniquités. Il nous a fait grâce. Et c'est de cela que vous devez vous souvenir. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui demeure. Et non seulement je vous ai aimé, mais je vous aime. Parce qu'il est dit dans Job, un verset que je cite souvent, si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, moi je resterais en vie. C'est vrai? Non. Pas vrai. C'est une fausse traduction. Toute chair, et moi je suis aussi de chair, expirerait ensemble, puis ce serait le grand silence. Parce que vraiment Dieu nous supporte. Évidemment, il est amour. Alors vous savez la définition de l'amour. L'amour, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il ne périt jamais. Alors celui qui a inspiré saint Paul sur ses définitions de l'amour ou sur ses qualifications de l'amour, eh bien, il vit ce qu'il dit. Et il nous a supportés jusqu'à ce jour. C'est vraiment tonique. Alors, maintenant, nous n'allons plus regarder aux méchants, à ce qui se passe, pour leur porter envie. Nous voulons dire, merci au Dieu que tu aimes les méchants. Parce que moi, j'en étais un. Merci parce qu'il y a peut-être encore dans ma famille des gens qui ne t'aiment pas. Mais toi, tu les aimes. Et je peux encore croire que tu vas intervenir pour eux. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien? Alors, nous n'allons plus fatiguer le Seigneur en lui disant, en disant ces choses, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Non, c'est Dieu qui est bon même à l'égard de ceux qui font le mal. Retournez la chose. Dieu est bon même à l'égard de ceux qui font le mal parce qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se convertissent et qu'ils vivent, qu'ils se détournent de ses voies et qu'ils vivent, afin qu'un jour ils puissent prendre vraiment son plaisir en lui, parce que Dieu ne prend pas plaisir aux méchants. C'est pas vrai. Il ne prend pas plaisir aux méchants. Il est triste, il est affligé quand il voit la méchanceté du monde. Et alors ne dites plus « Dieu est injuste ». Dieu, est-ce qu'il est possible que Dieu soit injuste? Abraham avait mieux compris cela que nous autres. Quand il priait pour Sodome, il disait, est-ce que le juge de toute la terre pourrait commettre une injustice? Mais ce n'est pas possible. S'il y avait 50 justes à Sodome, disait Abraham à l'Éternel, est-ce que tu exterminerais Sodome? Et qu'est-ce que l'Éternel répondait? Le juge de tout ça. Il dit non, pas du tout. S'il y en a 50, je pardonne. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Oui, mais s'il y en avait 45, ben je pardonne encore. Oui, mais s'il n'y en avait que 30, je pardonne encore. Le pauvre Abraham a encore peur. S'il n'y en avait que 20, je pardonne encore. Alors je parlerai plus qu'une fois. S'il y en avait 10, il n'y en avait pas 10. Mais s'il y en avait eu 10, il pardonnait. C'est pourquoi chez les Hébreux, chez les Juifs, pour qu'une réunion spirituelle soit valable, il faut être 10. Si vous n'êtes pas 10, ce n'est pas une réunion valable dans la synagogue. Il faut être au moins 10. Tandis que chez les chrétiens, avec Jésus, combien faut-il être? 2 ou 3. C'est mieux encore. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Tandis que chez les Juifs, il faut être 10. En souvenir de quoi? De l'intercession d'Abraham pour Sodome. Mais il n'y avait pas 10 justes. Alors, je pense que cette fin du chapitre 2 est bien claire. Nous n'allons plus mettre en doute la justice de Dieu en regardant ce qui se passe. Parce que quand on dit « Où est le Dieu de justice ?» qu'est-ce qui va arriver quand on dit ça? Voici, j'enverrai mon messager. Il vient, le Dieu de justice. Il a promis sa venue. Il vient. Voici, j'enverrai mon messager. Et qui est ce messager-là? C'est Jean-Baptiste, le premier. J'enverrai mon messager. Quel est le prophète qui avait déjà annoncé cela? Le prophète Ésaïe. Ésaïe avait parlé de ce messager qui serait envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Cette voix, n'est-ce pas? Verset chapitre 40. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'était de Jean-Baptiste et qu'il était question là encore. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Vous connaissez l'Évangile, donc vous voyez que depuis le chapitre 3 de Malachie, il suffit de tourner une ou deux pages et vous arrivez en Matthieu. Et c'est le ministère de Jean-Baptiste qui vous est décrit dans le chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu, puis dans Marc ensuite, et dans Luc également. Que devait faire ce messager? Préparer le chemin devant moi. Et soudain, alors, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Il veut un Dieu de justice qui manifeste la justice, eh bien, il vient. Et dans ce chapitre, nous allons voir, dans cette fin de Malachie, que les deux venues du Messie sont clairement annoncées. La première venue du Messie, conformément à toutes les autres prophéties bibliques, s'est donc accomplie quand Jésus est né. On va rappeler cela à Noël, quoi qu'il ne soit pas né à cette époque de Noël. Mais peu importe, on a choisi pour rappeler la naissance de Jésus, la nuit la plus sombre de l'année. Parce qu'il est la lumière du monde et qui a resplendi dans la nuit. Il est venu en chair, dans ce corps qui a été formé pendant 9 mois dans le sein de la Vierge Marie qui a accepté que l'œuvre de Dieu se fasse en elle. Elle est pour nous un exemple
parce qu'elle a dit oui à la volonté de Dieu, alors que en disant son oui, elle risquait quoi? La mort. Elle risquait la mort. Et c'est pourquoi je dis et je souligne que Marie est un exemple extrêmement précieux pour nous. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et alors, dans cette première venue de ce messager de l'Alliance, quel Seigneur lui-même, vous voyez qu'il y a eu Malachie comme messager, il y a eu aussi comme messager au chapitre 2e le sacrificateur, les descendants d'Aaron, ceux qui étaient fidèles, eh bien, ils étaient vraiment les messagers de l'Éternel. Et maintenant, il y a Jean-Baptiste au chapitre 3, verset 1, et puis il y a le Seigneur lui-même, messager ou ange, l'ange de l'Éternel, le Seigneur manifesté en chair. Et il est dit qu'il vient soudainement, il entrera soudainement dans son temple. Bien, vous voyez, après les 30 années d'obscurité de la vie du Seigneur, tout à coup, il arrive auprès de Jean-Baptiste au Jourdain. Mais la première entrée soudaine dans le temple, à la première venue de Jésus, ce fut quand? Non? Quand il a été présenté, hein? Non, pas quand il était, quand il avait 8 jours, on l'a circoncis, mais la circoncision n'avait pas lieu au temple. Mais il a été présenté au temple de Jérusalem par Marie et Joseph. Et qui l'a reçu dans ses bras? Un vieillard, le vieillard Siméon. Et quel est le témoignage qu'il a dit soudainement? Mes yeux ont vu ton salut. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le temple, au moment où Marie et Joseph présentaient leur offrande, qui était l'offrande du pauvre de Colombe, parce qu'ils n'avaient pas le moyen d'apporter une offrande plus chère, un agneau, ils ont apporté l'offrande du pauvre, parce que le couple de Nazareth était pauvre. Et Siméon, en voyant le petit enfant dans ses bras, j'aime tellement à souligner cela, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Donc là, vous avez la définition du salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est quelqu'un. C'est Jésus. C'est pas quelque chose, le salut. C'est Jésus. Avoir le salut, c'est avoir reçu Jésus. Pas seulement dans ses mains, mais dans son cœur. Mes yeux ont vu ton salut. Puis après avoir dit que c'est le salut de Dieu qu'il a vu, il dit, la lumière pour les nations. Quelle espérance. Siméon a déjà compris que ce n'est pas seulement le salut de Dieu pour les Juifs, mais la lumière pour les nations. Comme il l'a dit qu'un jour, toutes les nations, parce que grand est son nom, offriront de l'encens au Seigneur. C'est la lumière des nations. La lumière des nations, c'est Jésus. Et puis, finalement, la gloire d'Israël. Ah, quand Israël, quand ce peuple reconnaîtra que Jésus est leur sujet de gloire, alors leurs épreuves se termineront. Mais il faut encore qu'ils passent par un terrible chemin pour en arriver à reconnaître que leur sujet de gloire, c'est pas leur longue histoire, c'est pas le fait même qu'ils ont été choisis pour être les dépositaires de la loi de Dieu en Sinaï. Leur sujet de gloire, c'est d'être le peuple du Messie, car le salut vient des Juifs. Mais le salut des Juifs, c'est qui? C'est Jésus, c'est quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que leurs épreuves se termineront. Et à ce moment-là, il y a eu aussi une femme qui s'est approchée. Elle s'appelait Anne. Donc quand il est venu la première fois dans son temple. C'était son temple, c'était la maison de son père. Certes, il y est revenu une seconde fois quand il avait 12 ans.
avec ses parents. Il est venu d'autres fois, certainement, puisqu'on montait à Jérusalem régulièrement. Mais il n'y a que ces faits-là qui nous sont rapportés dans l'Évangile. Mais ensuite, sa venue, alors qu'il s'est fait remarquer dans son temple, venue soudaine, vous l'avez dans le chapitre 2 de Jean, et qu'est-ce qu'il a fait dans son temple? Il a purifié. Une maison, une caverne de voleurs. Et voyez-vous, dès que c'est la religion qui s'en mêle, eh bien, ça devient une question d'argent. Et c'est ça qui écœure le monde. Quand la religion devient une question d'argent, eh bien, ça écœure le monde. Et c'est aussi l'approche du jugement de Dieu. Alors, veillons à cela. Le Seigneur, dans sa soudaine venue, a fait un fouet de corde, a balayé les tables des changeurs, a chassé non seulement les animaux, mais il a fait sortir aussi ceux qui les vendaient et qui s'enrichissaient dans ces fêtes qui n'étaient plus les vraies fêtes de l'Éternel, mais qui étaient devenues les fêtes des Juifs. Vous lirez l'Évangile et vous verrez la Pâque des Juifs, la fête des Juifs. Or, ces fêtes, elles avaient été instituées par l'Éternel, et au début, c'était les fêtes de l'Éternel. Mais ça a été devenu avec la tradition et les coutumes des fêtes des Juifs, où on avait ajouté toute espèce de choses qui n'étaient pas du tout dans la pensée de Dieu et qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais on veut toujours améliorer ce que Dieu fait. Parce que Dieu, il faut quand même l'aider. C'est votre verset biblique, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez la citation. Cherchez-la. J'ai dit une fois à l'Institut Paul VI, à ses élèves, « Trouvez-moi ce verset. » Ils ont cherché toute une journée. Parce qu'on entend tout le temps cela, n'est-ce pas? Comme il est dit, « Toi, le ciel t'aidera. » Eh oui, c'est un père qui m'a dit ça une fois. Mais il n'a pas pu me donner la citation. J'ai dit que quelquefois on pourrait penser que c'était Sarah qui avait trouvé ça, quand elle a voulu aider le Seigneur. Avec la petite Agar. Alors, je sais pas. Mais voilà, un jour le Seigneur viendra. Eh bien, il vient, voici, il vient. Celui que vous désirez. Mais je vous le demande, est-ce que vous le désirez, le Seigneur? Ah ben, vous diriez... Vous direz, mais si on avait été de cette génération, nous l'aurions désiré. Combien est-ce qu'il y en a qui le désiraient? Il y avait Siméon. Il y avait Anne. C'était un petit groupe de croyants. Il y avait Marie et les siens. Oui, il y avait un groupe de croyants et qui attendaient l'accomplissement de ces promesses, ce qu'on appelait la consolation d'Israël. Et ils n'étaient pas nombreux. C'était en tout cas pas Hérode qui attendait cela, hein, parce que ça allait le mettre dans une situation difficile. Et il y avait la famille de Jean-Baptiste, bien sûr, un petit groupe de fidèles attendait le Seigneur. Désirer sa venue, le désirer des nations. Bien voici, il vient. Mais maintenant, qui désire le retour du Seigneur? Parce qu'il reviendra. On m'a dit récemment, vous avez écrit un livre sur le retour de Christ, mais est-ce que vous osez encore en parler? Parce que même chez les évangéliques, on n'y croit plus. On pense que l'enlèvement de l'Église, non, non, c'est pas ça, n'est-ce pas? On est ce qu'on appelle amillénariste. Bon, ben, gardez vos idées. Mais
je peux quand même me réjouir de penser que le Seigneur veut. C'est une bienheureuse espérance. Et j'oserais encore prêcher le retour du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de vérité plus sanctifiante que celle-là. Plus consolante aussi que celle-là. Plus stimulante que cette vérité pour l'évangélisation. Car dans l'Église primitive, on attendait le retour du Seigneur. On attendait sa venue. Et puis pourtant, on évangélisait. Quand on nous dit que ça paralyse l'évangélisation, c'est pas vrai. Au contraire, ça la stimule. On a peu de temps pour le témoignage. Alors, verset 2, vous voulez la justice de Dieu. Bien, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Ah, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Mais alors ça, c'est quelle venue? C'est la seconde. La première venue, on a pu la soutenir. On a pu prendre le petit enfant dans les mains, dans les bras. Mais quand il reviendra en puissance et en gloire, non plus comme l'agneau dont parlait Jean-Baptiste qui allait être immolé, mais comme le lion de la tribu de Juda, quand on entendra le terrible rugissement du lion de la tribu de Juda, quand le Seigneur reviendra non plus dans cette chair qu'il a manifestée, mais dans sa gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût, eh bien, qui restera debout quand il paraîtra? Car il y a la venue du Seigneur et puis il y a ensuite son apparition. Sa venue a été dans la faiblesse. Il est né à Bethléem. Il a été couché dans une crèche. Tout le monde a pu supporter cette venue. Mais quand il apparaîtra du haut du ciel, et que ce sera comme l'éclair d'un bout à l'autre du ciel, qui restera debout quand il paraîtra? Alors là, vous pourriez prendre tous les textes de saint Paul concernant la seconde venue du Seigneur. Et vous savez que la seconde venue du Seigneur, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 1500 textes qui parlent du retour en gloire du Messie, dans l'Ancien Testament seulement. Et dans le Nouveau Testament, concernant le retour du Seigneur, il y a 325 textes qui parlent de ce retour. 1 sur 25 dans le Nouveau Testament est consacré à la venue en gloire du Seigneur. Et on nous dirait que ce n'est pas une vérité clairement établie. Oui, elle est clairement établie, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Car il sera comme le feu du fondeur. Alors, vous voyez bien, est-ce que c'est sa première venue, ça? Quand le Seigneur est venu, est-ce qu'il a été comme le feu du fondeur? Non, il est venu en grâce. Il est venu apporter le pardon. Il supportait toutes les souffrances à un tel point qu'il a été appelé l'homme de douleur. Et si nous pouvons nous réunir demain matin autour du grand sacrifice que nous rappelons à la Sainte Cène, eh bien, nous contemplerons encore intérieurement celui qui a été l'homme de douleur, qui est venu dans ce corps de chair pour souffrir et pour mourir, afin de porter en son corps nos péchés sur le bois, pour qu'il ne soit plus question de nos péchés et que nous soyons sauvés. Mais ceux qui n'auront pas voulu l'accepter dans sa venue en grâce, le rencontreront en jugement. Si vous ne voulez pas du salut du Seigneur, qu'est-ce que vous aurez? Le jugement du Seigneur. Et alors là, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Vous savez ce que c'est que la potasse? C'est ce qui sert à faire le savon, et les foulons, c'est là qu'on foulait le linge. Eh bien, ça sera une venue purificatrice pour le monde. Le monde a besoin d'une purification. Et non seulement le monde, mais un certain peuple qui est le peuple du Messie. Et c'est de cela qu'il est question dans ces versets, c'est particulièrement de ce peuple qui est le peuple du Seigneur que Malachie parle, et de ce résidu qui passera par l'épreuve. Mais cela est vrai aussi pour nous dans le temps actuel. Quand le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, quelle est l'œuvre qu'il fait, qu'il accomplit? J'ai fait, Josaphat et François s'en souviennent une fois, un camp où nous avons parlé de Dieu sous différents aspects, quand il façonne une âme, puisque nous disons que nous devons nous laisser faire par lui. Nous avions pris le Dieu potier. Qu'est-ce que nous sommes, nous? L'argile. Dans la main du potier. L'argile ne dit pas au potier, pourquoi me fais-tu ainsi? Ce n'est pas l'argile qui donne des conseils au potier. Le potier, quand il voit que le vase n'est pas conforme à ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il fait? Il le détruit et le recommande. Alors, laissez le Seigneur vous façonner selon ses désirs. Je n'ai pas à donner des ordres au potier. J'ai à me rendre dans la maison du potier, comme il est dit dans Jérémie 18, pour voir le travail du potier. Si le vase n'est pas conforme aux désirs du potier, le potier pile l'argile, n'est-ce pas, et il fait un vase qui puisse lui convenir. Mais le Seigneur n'est pas seulement le divin potier, il est le divin fondeur. Nous ne sommes pas seulement de l'argile, nous sommes aussi un métal précieux. Et parce que justement, chaque âme, vos âmes sont précieuses au Seigneur, il met vos âmes dans le creuset. En vue de quoi? De diminuer votre valeur? Non. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, doit être trouvée tournée à sa louange et à sa gloire. Dans le creuset de la souffrance où Dieu fait passer nos âmes, eh bien, il les épure. Quand on met l'or au sein du creuset, ce n'est pas pour en diminuer la valeur, c'est pour enlever les scories. Et le divin fondeur, eh bien, il s'asseye devant le creuset pour diriger les opérations. Vous voyez, il est dit, verset 3, il s'assiera. Donc, quand on s'asseye, on met, ça veut dire qu'on a du temps et de l'attention. Vous ne serez pas plus longtemps qu'il ne faut dans vos âmes, dans le creuset. Dès que le Seigneur voit les scories s'en aller et qu'il peut voir son image dans le métal en fusion, il arrête le creuset. Il purifiera l'argent. Nous sommes donc un métal précieux. Laissons-nous purifier. Et il est dit, il purifiera les fils de Lévi. C'est donc bien le peuple. Et le Seigneur, dans sa seconde venue, a en vue aussi la purification du peuple d'Israël. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est la conversion d'Israël qui est annoncée pour le retour du Seigneur. Ils seront dans un tel état, je ne vais pas entrer dans les questions prophétiques, mais que j'ai entendu un jour à Jérusalem Menahem Begin dire cela quand il était encore Premier ministre, nous n'avons plus qu'un espoir, c'est le retour, c'est la venue du Messie. Il viendra, et il avait cité ce verset, il viendra en Sion. Il viendra en Sion et il purifiera Israël. Eh bien, oui, c'est un homme religieux, Menahem Begin, mais il ne sait pas que celui qu'il réclame, celui qu'il désire, est déjà venu et qu'il montrera ses mains. Et que l'on dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, ce sont celles qui m'ont été faites dans la maison de mes amis. C'est dans Zacharie qu'il a dit cela. Et alors, il est dit que dans les familles d'Israël, toutes les familles s'humilieront. Chaque femme à part, les hommes à part, chaque femme à part. Ce sera une humiliation personnelle. Et ils pleureront, il est dit comment on pleure sur un fils unique, c'est le fils unique de qui? De Dieu. Et ils se lamenteront comme on se lamente sur un premier-né, c'est le premier-né de qui? De Marie, n'est-ce pas? Son premier-né. Eh bien, tout cela, c'est dans l'Ancien Testament, de sorte que les Juifs peuvent se convertir au Christ en ayant déjà seulement l'Ancien Testament. Mais Chouraki a même traduit le Nouveau Testament du grec en français. Et quand je m'en vais dans des familles en Israël, je trouve dans bien des familles juives la Bible, pas seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Et beaucoup de Juifs, même qui ne sont pas encore convertis au Christ, disent « mais c'est aussi notre patrimoine, car en dehors de Luc, tout le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs, n'est-ce pas ? Par des hommes d'Israël. » De sorte qu'il y a tout un travail et qui se fait aussi en Israël. Un travail de préparation en vue de la venue du Seigneur. Mais il doit passer encore ce peuple, hélas, par toute espèce de jugement jusqu'à ce que cet orgueil soit brisé. Mais un jour, verset 4, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. C'est pas cela maintenant, du reste, il n'y a pas de temple maintenant. Comme au jour ancien, comme dans les années d'autrefois. Donc là, il est clair qu'il est question d'une restauration d'Israël. Parce que quand Jésus est venu à sa première venue, ce n'était pas cela. Les offrandes étaient frelatées. Lisez l'Évangile, lisez ce que Jésus a dit sur l'hypocrisie des conducteurs spirituels, que ce soit les pharisiens ou que ce soit les sadducéens. Mais quand il reviendra, tout sera changé. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Ah, vous avez demandé le jugement. Ben, le Seigneur vient. Et alors, qu'est-ce qui se passera quand il jugera? S'il n'est pas encore venu, il est dit que c'est parce qu'il patiente, dit l'apôtre Pierre. Parce qu'il voudrait que tous soient sauvés. Mais vous avez réclamé le jugement, vous avez dit, il n'y a pas de justice en Dieu, parce qu'il laisse subsister les méchants. Et maintenant, voyez la liste des méchants. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Tête à tête avec le Dieu vivant. Qui est ce Dieu vivant? C'est l'Éternel des armées. Ce Dieu vivant, nous avons vu que c'était un père, que c'était un maître. Et quoi encore? Un témoin. On a vu que c'était aussi un témoin, le Dieu vivant. Que c'était un roi, un grand roi. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est un juge. C'est aussi un juge. C'est un messager. Nous l'avons vu, vous pouvez noter tout cela, tout ce qui est dit, tout ce qu'on a appris du Dieu vivant, avec qui nous avons un tête-à-tête. Mais vous avez réclamé le jugement, vous avez dit, il n'y a pas de justice en Dieu. Ben attendez, je viens comme juge. Il est venu en grâce. Et quand nous lisons le chapitre 61 d'Ésaïe, que Jésus a lu à Nazareth, il s'est arrêté en disant, à quel moment? Il s'est arrêté au moment où il dit qu'il vient pour publier l'année de la grâce du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, etc., pour délivrer les prisonniers, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour publier l'année de la grâce du Seigneur. Puis il s'est arrêté là. Mais si vous lisez Ésaïe 61, qu'est-ce qu'il est dit après? Et le jour de vengeance de notre Dieu. Mais Jésus, quand il est venu en grâce, de sorte qu'il venait pour mourir. Mais quand il reviendra,
ce sera alors le jour de vengeance de notre Dieu. Alors, contre quoi est-ce qu'il témoignera? Je me hâterai de témoigner contre quoi? Les enchanteurs. Vous les connaissez? Qu'est-ce que c'est qu'un enchanteur? Ce sont ceux qui pratiquent dans l'occultisme, quel qu'il soit. Eh bien, les sciences occultes, l'astrologie, tout ce que vous voulez, si vous touchez à cela, vous êtes parmi les enchanteurs, parmi les magiciens. Eh bien, il y a un jugement qui va venir sur tous ces gens-là. Attention, sortez de cela. Vous avez pu toucher à ces choses. Eh bien, le Seigneur peut vous purifier, vous libérer, mais ne continuez pas dans ce domaine-là. Car il vient pour juger les enchanteurs. Bon, vous dites, moi ça ne me touche pas. Je ne suis pas dans ces choses-là. Mais il vient pour juger qui après. Deuxièmement, les adultères. Vous avez pu être adultère. Nous avons pu commettre adultère. Même celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, Jésus disait qu'il avait déjà commis adultère. Donc nous avons aussi à nous humilier de cela, de nos mauvaises pensées. Mais nous ne voulons pas vivre dans l'adultère. Après ce que nous avons lu, que nous devons être fidèles à la femme de notre jeunesse. Nous voulons condamner les adultères. Mais vous savez, c'est quand même terrible. L'autre jour, quelqu'un, une personne seule, que le mari a délaissée, est courtisée par un homme chrétien, qui pour lui montrer qu'il pourrait la rendre heureuse, vous savez ce qu'il lui a dit? Il avait de l'expérience parce qu'il avait connu 60 femmes. Vous vous rendez compte? Et j'ai trouvé magnifique la réponse de la jeune femme qui, si je me souviens bien, lui a dit, mais tu sais, tu n'as pas encore autant d'expérience que nos frères dans l'assemblée. Parce que eux, ben, ils en ont eu, mais ils leur sont restés fidèles. Hein? Il n'y a plus d'expérience. On a plus d'expérience avec une seule femme qu'avec 60. 60 passages. Qu'est-ce que c'est? Tableau de chasse. 60 femmes, vous vous rendez compte? Quelle expérience j'ai en eue, 60. Les descendants d'Ésaü ne sont pas morts. Des chasseurs. Et c'est ça que vous voudriez? Refaire votre vie avec quelqu'un qui a de l'expérience? Nous sommes fous, aveugles. On croit que c'est ça qui va nous donner le bonheur. Les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement. C'est donc qui? Les menteurs. Les menteurs qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors, demandons au Seigneur qu'il mette des paroles de vérité sur nos lèvres, parce que la vérité est au fond de notre cœur, de ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Et il est dit que Dieu veut la vérité au fond de notre cœur. Psaume 51. Quatrièmement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Comment est-ce que vous les appelez? Des voleurs. Ils ne payent pas ce qu'ils doivent. Ils retiennent le salaire du mercenaire. Il est contre les voleurs. Vous voulez le jugement, bien, ça viendra. Qui opprime qui? Les faibles, la veuve et l'orphelin. Voilà un cinquième point. Qui font du tort à qui? À l'étranger. On devient raciste. On n'aime pas l'étranger. Et on ne se souvient pas qu'on a été des étrangers. Puis qu'on est aussi toujours étrangers sur la terre. Et puis septièmement, les gens qui ne me craignent pas. Vous trouvez là sept catégories de personnes qui seront atteintes par le jugement. Et vous pourriez comparer cela à ce qu'il est dit dans le chapitre, un chapitre de l'Apocalypse, vous voyez lequel, je pense, le chapitre 21. Vous les retrouvez. Verset 8 du chapitre 21. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. Vous voyez comme on est dans le Nouveau Testament tout en étant dans l'Ancien. Verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre. Et puis vous avez la liste. Et qui est-ce qui a dit ça? L'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel. Et je ne change pas. Est-ce que vous le savez, ça? La figure de ce monde passe, mais le Seigneur ne change pas. Et ses paroles ne passeront point. Ce qu'il a dit s'accomplira. Mais vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ça, c'est une traduction. Vous n'avez pas été consumés. Mais on peut aussi traduire, si moi je ne change pas, vous, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours les mêmes. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Mais c'est aussi en grâce et en amour, malgré tout ce que vous avez fait, vous restez les descendants de Jacob. Alors, c'est vrai cela quant à votre nature. On reste ce qu'on est. Mais si on accepte Jésus, on est transformé. Mais le Seigneur reste le même. Et si il est dit, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, je garde cette version-là, eh bien, ça veut dire que Dieu est toujours celui qui vous aime. Je vous ai aimé. Je vous aime. Moi, je ne change pas. C'est pourquoi il y a aussi salut pour Israël. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Mais vous voyez, ils n'ont pas changé. Le cœur de l'homme ne change pas. Vous croyez que je me suis amélioré depuis ma conversion? Quant à ma chair? Non. Je sais qu'elle est toujours capable de n'importe quoi. Si vous n'êtes pas convaincu que votre chair est toujours faible, eh bien, il va vous arriver un terrible accroc. Il va vous arriver ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était sûr de lui. Il a dit, Seigneur, quand même, tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous connaissez ces gens-là? Oh, moi, je te resterai fidèle, Seigneur. Moi, je ne suis pas comme les autres. Tu es exactement comme les autres. Tu es même pire que les autres. Parce que le coq n'aura pas chanté deux fois que toi, tu m'auras renié trois fois. Mais Pierre ne se connaissait pas. C'est pourquoi je vous ai dit dans le tête-à-tête avec Dieu, il y a deux personnes, est-ce que vous vous connaissez? On ne se connaît que dans la lumière de Dieu. Et alors, on devient humble et petit à nos propres yeux.
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Regardez David. David, il a écrit de très beaux psaumes. Pour un instant où il n'est pas à sa place, il tombe. Et il commet non seulement l'adultère, mais il devient criminel. Il fait tuer Uri par main interposée. Et il connaissait la loi de Dieu. Mais quel est l'amour de Dieu? Vous n'avez pas observé mes lois jusqu'à maintenant, mais revenez à moi. Voilà les déclarations positives de Dieu. Je vous ai aimé, je vous aime. En voilà une autre, revenez à moi. C'est tout le message des prophètes, en particulier de Jérémie. Mais si vous revenez, revenez à qui? À moi. Et alors, qu'est-ce qui arrivera? Je reviendrai à vous. Mais revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et il ne peut pas mentir. Mais nous, nous disons, vous voyez, la cinquième fois, en quoi devons-nous revenir? Vous n'êtes pas conscient que nous devons revenir au Seigneur sur certains points? En quoi devons-nous revenir? Alors Dieu parle. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'on peut le tromper? Mais car vous me trompez. Mais vous n'êtes pas conscient que vous me trompez. Parce que qu'est-ce que vous dites? En quoi t'avons-nous trompé? Voilà la sixième fois qu'on trouve ces paroles. Hein. En quoi nous as-tu aimés? En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous profané? Et vous dites pourquoi? En quoi t'avons-nous fatigué? Où est le Dieu de justice? En quoi devons-nous revenir? Toujours la même histoire. On n'est pas conscient de nos fautes. En quoi t'avons-nous trompé? Bien, Dieu dit, vous m'avez trompé dans les dîmes. Vous savez ce que c'est que la dîme? Qu'est-ce qui a donné la dîme en premier lieu? C'est Abraham, la dixième partie de tout ce qu'il avait reçu, il les a donnés au sacrificateur. Donc, on voit que c'est un principe divin qui était ancien. Mais vous m'avez trompé dans les dîmes et dans les offrandes. On a vu ce que c'était, la tromperie dans les offrandes, mais aussi dans les dîmes. Et vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Et cela, il faudrait lire dans l'histoire de Néhémie, et qui nous montre que c'était pourtant dans leur alliance qu'ils avaient renouvelée avec l'Éternel, ils s'étaient engagés à donner la dîme. Chapitre 10 du prophète du livre de Néhémie. Verset 32. Nous nous imposâmes ainsi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour des choses consacrées, pour des sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Et puis, verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits et de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils, de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis. Donc, il voulait vraiment revenir à la loi d'Israël. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre part, de nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le mou et l'huile, et de livrer, quoi? La dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc, il s'était engagé à cela, à ne pas abandonner la maison de l'Éternel. Et puis, voilà que ils n'ont pas tenu parole, comme bien souvent quand nous-mêmes, nous prenons toute espèce d'engagement que peut-être Dieu ne nous a pas demandé de prendre. Chapitre 13 du même livre de Néhémie qui vous fera bien comprendre. Verset 4. Donc, Néhémie constate que les enfants d'Israël se sont corrompus, qu'ils ont se sont divorcés de leurs femmes israélites, qu'ils ont pris des femmes étrangères. Et il dit au verset 4, avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, Tobija c'était un étranger, avait disposé pour lui une grande chambre, où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du moût, de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Il avait dû repartir chez le roi Artaxerxès, car j'étais retourné auprès du roi à la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être longtemps loin pour que ça dévie, je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib, qui était pourtant le sacrificateur, en disposant une chambre pour Tobija, qui était donc un étranger, dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif plaisir. Des plaisirs. Et je jetai hors de la chambre, quoi ? Tous les objets qui appartenaient à Tobija. Mais c'est risqué de faire ça. On risque de nous assassiner. Non ? J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Puis vous voyez, j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Ils ne pouvaient pas vivre. Ils n'avaient pas les moyens. Alors chacun retournait à sa terre et le service n'était pas fait. Alors, vous voyez, maintenant, vous pouvez comprendre la réaction de ce message de Malachie sur les âmes. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Apportez à la maison du trésor, verset 10, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et puis, ce fameux verset, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, quoi ? Quand est-ce qu'elles se sont ouvertes, ces écluses des cieux, la première fois dans la Bible ? Au déluge, hein, vous trouvez la même expression dans le chapitre 7 de la Genèse, les écluses des cieux. Eh bien, vous aurez un déluge de quoi ? De bénédiction. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en l'abondant, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Donc on retombe sur nos pattes. Hein. On retrouve la parole que nous avons vue ce matin. Elle nous reste pour le soir. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, parce qu'il est le chef de sa grande armée. Il commande à l'éclair où il doit frapper. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, parce qu'il est le grand vigneron, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Le Seigneur voudrait que les croyants soient heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est ce qui arrivera pour Israël. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites maintenant, voilà encore une septième fois,
qu'avons-nous dit contre toi? Je crois que maintenant vous commencez à comprendre le style, le langage littéraire de ce prophète Malachie. Des questions de Dieu et puis des questions des hommes. Un tête-à-tête, oui. Mais qu'avons-nous dit contre toi? Et vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné? Oh. C'est ça? Vous servez le Seigneur pour gagner quelque chose? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Et puis, vous avez pensé quelque chose de pire. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Est-ce que nous avons eu des pensées comme celle-là? Peut-être. Il y a eu des moments où on s'est trouvé un peu malheureux, seul, puis on a regardé autour de soi, puis on a vu des méchants qui avaient l'air heureux. Et puis, nous avons dit, nous les avons estimés heureux les hautains. Au fond, à quoi ça sert que je me sois converti? J'ai des misères, j'ai toute espèce de malheur, puis je ne comprends pas que Dieu est en train justement de me purifier, que je suis justement un bien-aimé, parce que le Seigneur ne me laisse pas dans mon état. Que les méchants prospèrent, mais je le comprends, parce que Dieu a encore de la patience pour eux, parce qu'il voudrait qu'ils changent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Mais nous, combien de fois est-ce que nous n'avons pas tenté Dieu? Hein? Vous avez toujours été pris? Combien de fois vous avez échappé, vous aussi? Vous avez tenté Dieu, puis il vous a fait échapper. Parce que, encore une fois, si Dieu avait agi selon l'état de notre cœur, qu'est-ce que nous serions? Nous serions tous condamnés. Mais il a eu pitié de nous. Alors, faites attention maintenant, hein, parce qu'il y a toute une propagande qui se fait sur ces textes. On sort ces textes du contexte. Et on vous dit, bien, il faut donner la dîme. Moi, je veux bien que vous ayez une norme pour savoir ce que vous devez donner pour le Seigneur. La dîme peut être une norme, mais peut-être que vous serez appelé un jour à donner plus que la dîme. Et puis, d'un autre côté, vous n'êtes plus sous la loi non plus, et le Seigneur ne vous demande pas plus que vous ne pouvez donner. Mais maintenant, comme on a tellement besoin d'argent, on prend ce passage, et on dit, et ce sont même des gens, même évangéliques, ou alors, ce qu'il y a de très mauvais, c'est que bien souvent, chez nos amis catholiques, on imite ce que font les évangéliques. On imite tout le mauvais que font les évangéliques. Parce que vous savez, les yeux d'autres personnes sont aussi sur ce qui se fait dans nos milieux. Et vous commencez à trouver des choses absolument semblables dans l'Église romaine. Parce qu'ils prennent les principes qu'on a. Et on vous dit, empruntez à la banque pour donner, et Dieu est obligé de vous rembourser. Ça, c'est formidable. Parce qu'on cite cette parole. Faites des dettes, chers Canadiens, Québécois. Faites des dettes pour le Seigneur. Et vous serez bénis. Fantastique. Empruntez et donnez aux œuvres. Et vous verrez, le Seigneur vous donnera. C'est une abomination. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer. Et si vous avez besoin, qu'est-ce qu'on doit faire? À qui? Au Seigneur. Demandez au Seigneur. Quand tu as un besoin, entre dans ton cabinet, qu'il est dit dans ta chambre, ferme la porte sur toi. Ne fais pas sonner toutes les cloches pour présenter tes besoins. Dis tes besoins au Seigneur. Et quand tu as dit tes besoins au Seigneur, si c'est un Dieu vivant, si tu as eu un vrai tête-à-tête avec le Seigneur, l'or et l'argent sont à moi. Et vous verrez des réponses extraordinaires, des réponses qui vous confondront, qui vous font trembler. Il y a plus de 50 ans, que je connais cela par la grâce de Dieu. Et
Et quand c'est vraiment du Seigneur, bien, il y a un contrôle, parce que c'est très grave, l'histoire de l'argent. Et voyez-vous, on a dit que pour les serviteurs de Dieu, et j'ai dit que nous sommes tous au service du Seigneur, mais c'est un danger pour tous, mais spécialement pour ceux qui prétendent vivre par la foi, il y a trois dangers, hein, qu'on appelle l'OAS, c'était un mouvement en France, pour ceux qui connaissent la France, hein, l'OAS, c'est un mouvement pas très beau, mais pour les chrétiens, c'est O, c'est orgueil. Ce qui perd les serviteurs de Dieu, c'est l'orgueil. Puis, A, c'est quoi? L'argent. Hein? Parce qu'on croit que on croit que quand on est un serviteur de Dieu, il doit être riche.